Bienvenue, bonne veine en Esperanto Magazine numéro 233 Ducentri Dectri. Nous sommes le 8 mars, la Ocan de Marto 2021. Esperanto Magazine, c'est une heure d'actualité, de découverte, de rencontres, de reportages, de création, de musique et de littérature autour de la langue internationale Esperanto, mais plus largement autour des langues et des cultures, des échanges et de la solidarité internationale. Esperanto Magazine estas unu hora el sendo, parte Esperante, parte France. Ni parolas pri la internacia lingvo, sed ankaŭ pri aliaj temoj. Vi povas aŭskulti nin preskaŭ ĉiun lundon de la 12 ĝis la 21 vespere en canalsud.net. Vi ankaŭ povas reaŭskulti la podcaston en toulouse.oxeo.net. Vous pouvez nous écouter presque tous les lundis soirs de 20h à 21h sur Canal Sud 92.2 FM en région toulousaine et sur canalsud.net partout dans le monde. Vous pourrez aussi nous réécouter en podcast sur toulouse.oxeo.net. Une émission enregistrée en partie à la maison, en partie à Canal Sud jeudi dernier, avec nos volontaires Tanguy, Leila, Jonathan, Inès, Lucas, Jade, Manu, Kaijan. Au programme ce soir, nous parlerons du rôle essentiel des femmes dans la science, en évoquant un article du Global Voices en espéranto, du décès de l'espérantiste hongrois Vilmos Bencsik et du succès de l'espéranto à la Journée internationale de la langue maternelle. Kio novas ni parolos pri la grava rolo de inoj en scienco kun artikolo de Global Voices Esperante pri la forpaso de la fama esperantisto Vilmos Bencsik kaj pri la sukceso de Esperanto dum la tago de la gepatra lingvo. Posten estos interiuo de Axiel, de la feminisma anarchiisma biblioteco de Toulouse, recepto de biero cun Luca, cae iom da poesio dulingve. Ce soir également au programme une interview d'Axiel de la bibliothèque anarcha féministe de Toulouse, suivie d'une recette de bière par Luca et d'une lecture de poésie bilingue. Et bien sûr, l'agenda pour finir. Et comme d'habitude, nous faisons découvrir de la musique en espéranto avec ce soir une sélection d'artistes femmes en l'honneur de la Journée internationale des droits des femmes grâce à notre partenariat avec le label indépendant Vinyl Cosmo.
Stato la motora, stato la stirina, stato la motora, stato la stirina. Navas.
Quoi de neuf?
Quoi de neuf?
Kio Novas.
C'est vers Global Voices Esperanto que nous nous tournerons pour l'actualité d'aujourd'hui. Global Voices est un réseau international et multilingue de blogueurs, journalistes, traducteurs, chercheurs et militants des droits de l'homme qui couvre l'actualité de la blogosphère mondiale. L'une des forces de cette communauté est son projet Lingua, un projet développé par des bénévoles qui traduisent les articles en une trentaine de langues, dont l'espéranto, et s'assurent donc que la langue ne soit pas une barrière à la compréhension du monde qui nous entoure. La semaine dernière, la publication d'un entretien avec l'océanologue équatorienne Patricia Castillo-Briceño mettait en avant le rôle des femmes dans les sciences. En 2016, elle a cofondé le réseau équatorien des femmes scientifiques, REMSI, qui favorise la collaboration entre les femmes et encourage les jeunes filles et femmes à envisager la science comme choix de carrière. Pour lire le reste de l'entretien ou pour naviguer sur Global Voices Esperanto, nous partagerons les liens sur la page de notre podcast. Hodiaŭ ni tornas nin al tutmondaj voĉoj aŭ Global Voices Esperanto por la novaĵoj. Global Voices estas internacia kaj plurlingva reto de blogantoj, ĵurnalistoj, tradukistoj, scienculoj kaj homaj rajtoj aktivuloj. Ili skribas pri novaĵoj de la tutmonda blogosfero. Unu el la fortoj de tiu komunumo estas la ĝia projekto en lingua, disvolvita de volontuloj kiu traduktas la artikolojn al ĉirkaŭ 30 lingvoj, inkluzive Esperanton. Tio certigas ke la lingvo ne estas baro al la kompreno de la mondo ĉirkaŭ ni. Pasintsemajne la publikigo de intervjuo kun Patricia Castillo-Briceño, kiu estas ekvadora marbiologo, emfazis la rolon de virinoj en scienco. En 2016 ŝi kunfondis la ekvadoran reton de inajn sciencistojn, REMSI, kiu subtenas kunlaboron inter virinoj aŭ instigas knabinojn ekde junaĝo konsideri studi kaj elekti sciencon en siaj karieroj. Por legi la reston de la intervjuo aŭ por retumi ĉe Global Voices Esperanto, ni dividas la ligilojn en nia podcasta paĝo.
Le 27 février 2021, Vilmos Bencik, l'un des plus grands espérantistes de notre époque, est décédé à Budapest. Vilmos Bencik est né en Hongrie, dans le village de Tsar, le 11 juillet 1945. Il est devenu espérantiste à l'âge de 14 ans. Depuis lors, il a apporté d'importantes contributions à la culture espérantiste, à la fois dans l'écriture et la traduction, mais aussi en tant qu'éditeur. Sa contribution au mouvement espérantiste a été très importante, et pour ne citer que quelques-uns de ses tours de force, il a été dirigeant du département d'édition de l'Association hongroise d'espéranto pour les années 1970-1980, et selon les estimations, pas moins de 138 titres en espéranto sont apparus pour un titrage total d'environ 370 000 exemplaires. Il a rejoint l'UEA en 1977 pour en devenir membre à vie, participant à environ 20 congrès, et en 2016, il était élu membre honoraire de l'UEA. La 12e de februaro 2012, Vilmos Bencik, unu el la plej granda esperantistoj de nia epoko, forpasis en Budapeŝto. Vilmos Bencik naskiĝis en Hungario en la vilaĝo de Tsar la 11 de julio 1945. Li esperantistiĝis kiam li havis 14 jarojn. Ekde tiam li grave kontribuis al la Esperanto-kulturo per verkado kaj tradukado, sed ankaŭ per redaktoraj kaj eldonistaj laboroj. Lia kontribuo al la Esperanto-movado sendube estis impresa, kaj por mencii nur kelkajn el liaj fortaj heroaĵoj, li estis estro de la eldona fako de Hungaria Esperanto-Asocio dum la jaroj 1970-1980. Laŭ taksoj aperis ne malpli ol 130 hoc esperantae tituloi cun la summa eldon quanto de circau 370.000 exempleroi. Cae li membregis en UEA en 1977, cae poste farigis dumviva membro de la asocio. Li partoprenis en circau 12 universalai congressoi, cae en 2016 li estis electita honora membro de UEA.
Cela fait plusieurs années que l'UEA est en relation avec le Conseil économique et social des Nations Unies, mais l'espéranto attire rarement l'attention de l'institution. Après la dernière journée internationale de la langue maternelle, le message de l'UEA a été inclus dans le bulletin hebdomadaire du Conseil. Le communiqué de l'UEA affirme les avantages éducatifs des langues maternelles, ainsi que l'utilité de l'espéranto dans l'éducation et l'intercompréhension. Le membre du comité, Renato Corsetti, a également pointé les inégalités économiques et sociales créées par l'usage de l'anglais dans la communication internationale. Vous pouvez retrouver un article à ce sujet sur le site Libera Folio et lire le message complet de l'UEA sur leur site. UEA de jardekoj havas formalajn rilatojn kun la ekonomia kaj socia konsilio de Uniĝintaj Nacioj, sed malofte Esperanto ricevas atenton de la UNO instancoj. Sole al la hodiaŭa tago de la gepatra lingvo, tamen la komunika sekcio de UNO unuafoje inkluzivis mesaĝon de UEA en sia ĉiusemajna komuniko al neregistaraj organizaĵoj. La mesaĝo asertas la edukajn avantaĝojn de uzado de la gepatra lingvo en lernejoj kaj la utilo de Esperanto por edukado kaj interkompreno. Komitatano Renato Corsetti ankaŭ emfazas neegalaĝo, kiu rezultas de la uzo de la angla por la internacia komunikacio. Vi povas trovi artikolon pri tiu en Libera Folio kaj legi la mesaĝon okaze de la Internacia Tago de la Gepatra Lingvo en la retejo de UEA.
Sociemon evitante dubas l'advitanto litimetas la comensigio della venonta presentat
Rencontre.
Pour la Journée internationale des droits des femmes.
femme, je me trouve à la bibliothèque anarcha-féministe Le Chat Noir, au 33 rue Antoine Puget, pour y rencontrer Andros et Axiel, qui y travaillent tous les mercredis et les dimanches, de 14h à 18h.
Bah déjà, je vais me présenter. Moi, je m'appelle Andros et je fais partie de la bibliothèque anarcha-féministe, qui existe depuis bientôt 3 ans. On est une bibliothèque autogérée, tout fonctionne à prix libre ici, donc il n'y a pas de question de thunes. On prête des bouquins, on prête et on vend des brochures, on organise différents ateliers autour de la lecture, mais surtout toujours dans l'idée d'avoir rendre les femmes et les minorités de genre visibles dans les luttes.
C'est Axiel, et j'ai rejoint la Bibi il n'y a pas très très longtemps, donc c'est pour ça sur les questions historiques de la Bibi, je vais laisser Andros parler.
Et du coup, quel type d'action est-ce que vous menez à l'intérieur et à l'extérieur de la bibliothèque, et quel type d'action vous avez mis en place pendant la période du Covid ?
Depuis que je suis là, moi j'ai participé à des arpentages, donc des moments où on va prendre un bouquin, le partager en plusieurs morceaux, et en fait chacune va prendre un morceau de ce livre, on se donne 3 quarts d'heure, mettons, et ensuite on fait un retour un petit peu pour mettre en commun en fait les morceaux de livres qu'on a lus. Donc ça permet, c'est un étude d'éducation populaire qui permet de lire un gros bouquin un peu dense, en 4 heures, quoi. Donc, ça, c'est plutôt pas mal. On a fait des lectures collectives en ligne pendant le confinement. Donc, ça, c'est la manière qu'on a eu un peu de faire des activités, même malgré le confinement, etc. Et ensuite, quand on a quand même rouvert en drive, entre guillemets, c'est-à-dire qu'on essaye de pas avoir trop de monde dans la bibliothèque au même moment.
On a aussi mis un comptoir devant la porte. Si les gens veulent pas rentrer, il y a la possibilité de juste demander un livre. Notre catalogue est en ligne. Du coup, on peut juste demander un livre, on vient le chercher, on le donne à la personne. Ou il ou elle peut rendre le livre juste devant, sans avoir à rentrer, quoi.
Les retours de livres, on les laisse quelques jours en quarantaine et on les range seulement après, la semaine d'après, quoi, généralement. Donc, Et après, il y a les actions que vous faites aussi en manif avec les bibliothèques ambulantes, là pour le 8 mars.
On a toute une activité qui se passe en dehors de la bibliothèque et toute une série d'activités qui se passent dans la bibliothèque. Donc dans la bibliothèque, il y a tout ce qui est tenir les permanences, donc ça veut dire animer un peu, répondre aux questions, s'il y a des discussions qui se font, les prendre comme elles viennent, pouvoir répondre aux gens ou pas. Il y a des gens qui ont envie de discuter seuls, il y a des gens qui viennent poser des questions, pouvoir conseiller des livres. Il y a eu des lectures partagées, notamment une lecture de fanzine qui se fait tous les 3e dimanche du mois ici. Donc un article lu en commun avec plusieurs personnes à voix haute, et après il y a une discussion qui s'ensuit pour parler qu'est-ce que ça nous fait ressentir, est-ce qu'on a déjà vécu des situations semblables, etc. Il y a déjà eu des tables rondes avec différentes personnes de l'édition à Toulouse. C'était super intéressant, ça a permis de voir un petit peu quels sont les mécanismes de l'édition, mais aussi comment les gens vivent leur engagement politique à tous les moments de l'étape du livre, l'étape de la vie du livre. Comment on choisit un imprimeur ou une imprimeuse, comment on traduit, etc. etc. Voilà. On a eu une personne qui est venue présenter son livre, une autrice qui est venue présenter son livre, avec une discussion à la suite, mais ça c'était encore une fois avant la pandémie. On a fait aussi, on a de quoi faire des projections. Du coup, on a aussi organisé ce genre de choses-là, faire des tables de brochures en lien avec des projections qu'il y avait ici. Et en dehors de la Bibli, souvent ce qu'on va amener, c'est pas les livres, parce que ça n'a pas forcément de sens d'amener des livres en dehors de la Bibli pour les prêter, mais c'est tout ce qui est brochures qu'on peut vendre à prix libre, donner, etc. Et là, du coup, on tient pas mal de tables de brochures, on tenait pas mal de stands de brochures sur des conférences et surtout sur des concerts, en fait. Donc on arrivait avec une table pliante ou prêtée, et on mettait toutes nos petites brochures. Et ça permet d'amener ces questions-là à des gens qui se les posent souvent, mais qui ne vont pas forcément avoir envie d'aller dans un truc trop, trop intellectuel. Je vais mettre des énormes guillemets avec mes doigts qu'on n'entendra pas, mais qui sont là quand même. Du coup, ça permet aussi d'amener ces questions-là, de permettre aux gens de discuter, de lire des choses, et de rendre accessibles aussi des trucs qui sinon seraient enfermés un peu dans des bibliothèques. Alors la nôtre, elle n'est pas poussiéreuse, elle a cette chance d'être très vivante. Mais c'est vrai que le texte, ça fait peur à plein de gens et c'est pas forcément un endroit où on a envie d'aller. Donc c'est cool aussi de pouvoir faire sortir les textes des lieux où ils sont traditionnellement cantonnés.
Et du coup, pour vous, déjà, qu'est-ce que c'est l'espéranto et qu'est-ce que ça vous évoque? Et est-ce que c'est quelque chose que vous pouvez relier à vos combats politiques ou à vos luttes que vous menez dans votre bibliothèque aussi?
Ce que je trouve vraiment, vraiment important dans ce local-là, c'est typiquement, il y a des bisbilles entre les groupes sur des points politiques, etc. Parce que c'est comme ça que ça fonctionne. Mais il y a une volonté de vivre en commun, une volonté de créer un espace commun et en fait de communiquer, de faire des choses ensemble et tout ça. Et il me semble que c'est vraiment dans la même logique que l'espéranto. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment une parenté qui peut très facilement s'établir en fait entre la langue espérantiste et les luttes, la convergence des luttes. En fait, c'est une histoire de convergence des luttes. Et même ce que tu disais sur le fait de sortir le texte des espaces consacrés. Alors moi, je pense que la raison pour laquelle les gens ne viennent pas forcément ici, c'est aussi la visibilité, mine de rien. Parce qu'il faut déjà avoir un peu mis un pied dans les milieux anards ou féministes, on va dire, pour connaître l'existence de lieux comme ça, parce qu'on n'est pas au centre-ville, on n'est pas...
d'habiter dans le quartier.
Enfin, en tout cas, il faut avoir un point d'entrée, c'est ça. Voilà, il y a ce truc-là de les langues franches, entre guillemets, ça a été les langues... en fait, c'est les langues savantes, c'est le latin à la base, puis le français parce que c'était hype et puis qu'on était les meilleurs colonisateurs. Ouais. Ensuite, maintenant, c'est l'anglais qui est quand même une langue plus facile dans le sens où la grammaire standard est plus simple. Donc, je pense qu'elle est quand même plus accessible que l'était le latin ou le français. Mais c'est pas fou non plus. Ça reste quand même la langue savante, en fait. C'est la langue dans laquelle on va écrire les textes scientifiques et de sorte à être compris à un niveau... entre gens qui savent,
sachante.
Entre sachantes, c'est ça. Moi j'ai aucune connaissance de l'espéranto. Je sais que quand j'étais à la fac, il y avait des gens qui avaient, il y avait une asso d'espéranto au Mirail, il me semble. En tout cas, il y avait des personnes autour de moi dans ma section, on va dire, qui militaient un peu pour son apprentissage et tout ça. Et effectivement, je trouve qu'il y a quelque chose de une convergence qui est totalement possible parce qu'il y a des objectifs qui sont communs, l'un sur le plan du langage et l'autre sur le plan de la butte, on va dire. Mais finalement, c'est des choses qui sont très convergentes, à mon sens. Je sais que... je maîtrise pas le calendrier de la Bibi parce que je suis pas... le calendrier, pardon. Le catalogue, merci. Parce que je suis pas là depuis très longtemps, mais on disait tout à l'heure qu'il y avait au moins un roman...
Oui. De Badjin. C'est parti, en fait, il y a eu une fascination pour l'espéranto, notamment chez les anarchistes asiatiques, chinois et japonais, ouais. Du coup, pour le coup. Et du coup, on a un bouquin de Badjin, alors je sais pas exactement où il est. Il y a eu vraiment une fascination de ces pays-là, et notamment un des premiers journaux anarchistes chinois a été édité directement en espéranto. Moi, je trouve ça génial. Enfin, je trouve ça trop cool. Mais ouais, pour rebondir sur ce que tu dis, ce que j'aime aussi beaucoup, c'est que l'espéranto se veut une langue auxiliaire, se veut pas être la langue maternelle de personne, et se veut être une langue d'aide à la communication entre les gens. Et c'est vrai que ça, c'est quelque chose... Enfin, c'est une place qu'on connaît pas, parce que y a très peu de gens qui connaissent les langues construites, notamment l'espéranto. Mais aussi cette volonté de pas effacer, de pas remplacer par quelque chose d'unifié, d'uniforme, voilà. Etc. Et de préserver la diversité, mais de créer une union, une solidarité à travers cette diversité. Et notamment, du coup, on le voit avec la SAT, qui est anationale. Ça veut bien dire quelque chose, ça veut dire qu'on est au-delà de la nation, qu'on se pose même pas la question de la nation, en fait.
Pour parler de féminisme plus précisément... moi, j'ai fait quelques recherches sur l'espéranto et le féminisme, justement, et j'ai été un petit peu déçue de ne pas trouver, en fait, énormément de ressources, de ne pas trouver énormément d'engagement de la part du mouvement espérantiste sur les questions féministes. C'est-à-dire qu'il y en a, il y a quelques blogs, il y a quelques personnes qui parlent de ces sujets, mais ce n'est pas du tout quelque chose de central, c'est quelque chose qui est un peu, peut-être, effacé sous l'idée générale de l'espéranto, qui serait une espèce d'égalité internationale, etc., qui fait qu'au final, les droits des femmes, tout ce qui est féminisme, etc., sont pas si souvent que ça mentionnés et débattus dans la communauté. Alors que si on discute d'oppression linguistique, si on discute d'inégalité linguistique, etc., le rôle de, enfin, la distinction genrée typiquement et les oppressions sociales que vivent les femmes, les minorités, etc., sont des éléments qui sont très très importants qui devraient
en fait,
être pris en compte.
J'ai l'impression. En fait. Alors, conjecture très très sauvage d'une personne qui s'est intéressée à l'espéranto à partir de 9h ce matin. Voilà. on a ce truc-là de l'universalisme républicain. C'est très présent, qui fait qu'en fait, s'intéresser au particularisme, du type les personnes non cis, non mec, non blanche, etc., non valide et tout, c'est finalement un bris de l'unité. Donc en fait, ça me paraît... finalement assez naturel dans cette pente-là de l'universalisme que les personnes qui soient qui aient davantage envie de s'investir dans quelque chose qui est de l'ordre de alors pas de l'utopie mais de l'utopie c'est pas vraiment le mot mais quand même il y a cette dimension utopique à l'espéranto même si je trouve que le mot comme tel qu'il est utilisé au quotidien est dévalorisant mais c'est pas du tout comme ça
que
je
serait-ce que parce qu'il n'y a pas de lieu qui parle l'espéranto.
Du oui,
coup,
oui,
il est utopique.
C'est littéralement utopique. Oui, c'est ça. Mais enfin, disons que je le pense. Enfin, comment dire, j'utilise le mot utopie en me disant c'est pas, c'est quelque chose, c'est positif d'avoir des utopies, quoi. C'est ça que je veux dire. C'est pas
genre
du tout quelque chose
rêveur,
de. C'est ça. Mais en fait, je pense qu'il y a ce truc-là de, nous, pourquoi on est anarcha-féministe parce que on va estimer que on a des trucs à déblayer en fait avant de pouvoir. Ou tout en avançant vers l'utopie en fait toujours dans un sens de on a besoin des utopies tout ça et je pense que c'est peut-être un petit peu la même chose qui va se passer du côté de l'espéranto j'en sais rien
voilà c'est aussi en ça que je trouve que c'est intéressant que ce soit conçu comme une langue auxiliaire c'est qu'il y a aussi ce truc là c'est pas un universalisme lissant on va dire
oui.
C'est pas genre la grosse tambouille de l'espéranto on prend toutes les langues on les mélange bien 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 et maintenant on parle que ça c'est il y a des langues, elles existent, elles vivent, la plupart. Elles se répondent, elles évoluent, etc. Et pour pouvoir communiquer entre locuteurs, locutrices de ces différentes langues, on va créer quelque chose d'autre qui est un liant, en fait, qui traverse ces différences. Et pour moi, c'est ça que je trouve vraiment intéressant, c'est que On a compris qu'il y avait des différences de linguistique qui ne permettaient pas de discuter directement avec mon voisin hongrois, par exemple. Et ouais, du coup, je trouve qu'effectivement, il y a cette notion d'universalisme qui reste vachement présente dans toute la culture européenne et notamment dans la culture libertaire. Parfois, c'est compliqué de faire comprendre que non, en fait, on ne peut pas vouloir une égalité de fait. Enfin, non, c'est pas ça que je veux dire. C'est que on peut pas traiter tout le monde pareil puisque les gens sont différents. Et du coup, on peut pas appliquer une égalité. On peut pas dire à telle personne égale telle personne parce que non, en fait, telle personne égale pas telle personne. Et même si on doit les traiter de la même manière, il y a des personnes, va falloir faire plus d'efforts. Il va falloir travailler plus sur certains trucs. Et je pense que ça, l'espéranto le gomme pas trop.
Peut-être que c'est quelque chose qui revient dans les milieux espérantistes religieux, mais on a cette image-là de la tour de Babel, où finalement il y avait une langue qui faisait qu'on était tous en harmonie, et ensuite du coup Dieu trouvant que les hommes s'élevaient trop près de son royaume a cassé l'unicité linguistique, et j'ai pas l'impression que l'espéranto soit dans cette idée-là du tout en fait, parce que à la fois comment dire. En fait, on va pas reconstruire la tour de Babel, on va construire un terreau commun pour communiquer. Et c'est pas pareil, en fait.
Voilà, et du coup, bon, on a beaucoup parlé du mouvement espérantiste et des idéaux de l'espéranto, mais après, je pense que même au niveau purement linguistique, il y a plusieurs choses qui pourraient être...
Du coup, ce matin, j'ai cherché particulièrement sur le genre et l'espéranto, parce que je me suis posé la question et je me suis dit que c'était quelque chose qui serait intéressant à discuter. Et du coup, j'ai regardé un petit peu la construction, et c'est vrai qu'il y a des choses qui sont... Donc, le genre des mots n'est pas marqué en espéranto, sauf qu'il existe un suffixe pour noter le féminin, et le mot, entre guillemets, le radical, va être neutre ou masculin. Et donc, il y a un article qui a été écrit, je ne sais même plus par qui, je suis désolée, mais bravo à cette personne, qui explique que, étant donné que c'est une langue construite, il serait peut-être intéressant de la modifier et de la rendre égalitaire sur des choses qui, lors de sa création, paraissaient pas nécessairement primordiales, et que l'avantage aussi de cette langue-là, c'est qu'elle peut évoluer et bouger. Et donc, dans cet article-là, il y a aussi des oppositions très virulentes dans les commentaires, en mode tu n'as qu'à apprendre ce qui existe déjà, tu feras des commentaires quand tu seras l'égal du maître, n'est-ce pas ? Et du coup, effectivement, c'était une source d'interrogation pour moi. Et j'ai bien aimé qu'il existe des articles qui posent la question de ça et qui le mettent en défaut et en réflexion en disant mais pourquoi ce suffixe féminin, ce préfixe masculin et ce genre neutre masculin. Voilà, je trouvais ça cool que ça existe, cette réflexion-là.
Ouais, bah alors, en lisant cet article, j'étais un peu choquée déçue. Parce que bah alors, moi, du coup, je suis de genre non-binaire et je galère vraiment beaucoup avec le français parce que c'est la merde, quoi, globalement.
Ça, c'est très dur.
Et en fait, de voir que l'espéranto, qui est en plus une langue qui est faite pour être simple, en fait, disent quand même non, mais le genre, c'est trop important pour s'en passer. Come on. Et c'est vrai que bon voilà, à la fois un peu intriguée en fait de me dire ouais, il y a des choses qui sont des impensées en fait, qui demeurent des impensées et même dans la construction d'une langue franche ça c'est quelque chose qui se pose et effectivement ouais, je trouve ça vachement intéressant.
Deux questions. Si l'espéranto était créé aujourd'hui, est-ce qu'il serait genré? Et deuxième question, pourrait-il exister une écriture inclusive en espéranto? Voilà, c'est deux questions un peu larges.
C'est assez intéressant.
Qu'est-ce que tu entends par écriture inclusive, du coup?
Bah justement, on a vu qu'il y avait des suffixes féminins, des préfixes masculins, que le genre était marqué sur certains mots et pas sur d'autres, qu'il y avait des racines qui étaient une problématique, donc patrino et virino, par exemple, qui sont les exemples qu'on a pris parce qu'ils étaient dans le seul article qu'on a lu. mais du coup, comment faire en sorte que le genre ne soit plus un obstacle grammatical, en fait, comme tu le disais en finnois. Et du coup, ouais, c'est un peu large, mais est-ce que l'espéranto peut bouger? À mon avis, oui, puisque c'est créé, et voilà, mais est-ce que ça va pas aussi nuire à l'apprentissage de la langue, à sa... Enfin, je pense aussi que rajouter des choses, c'est ou modifier des choses, ça veut dire un degré d'apprentissage en plus, même s'il est minime et qui peut simplifier pour d'autres personnes qui n'ont pas encore appris. Mais voilà, est-ce que si l'espéranto était créé maintenant qu'il existe des écritures inclusives dans à peu près beaucoup de langages, à peu près beaucoup, ouais. Est-ce que maintenant qu'il existe des écritures inclusives un peu partout, l'espéranto serait pas plus inclusif qu'il ne l'est déjà? Finalement. Du coup, il y avait la proposition de mettre un suffixe masculin, ouais. D'avoir des noms neutres et d'avoir deux
des suffixes. Vrais, en fait, des si vraies racines neutres.
Des vraies racines neutres.
Et finalement, Viro, il pouvait rester. Si, je veux dire, si on a la femme, c'est Virino, et puis l'homme, c'est Virlio, j'en sais rien.
Ça permettrait d'avoir une racine neutre. Ouais. Et notamment, que je trouvais très intéressant dans l'article, c'était que ça peut être utilisé quand on ne sait pas, quand on ne veut pas le dire, ouais, ou quand on s'en fout et que c'est pas primordial pour l'histoire.
Oui.
Parce que oui, bah, y avait une, enfin, on peut créer une inclusivité, notamment en revenant à la racine neutre, puisqu'elle existe.
Ouais.
Mais le seul truc, c'est que le féminin est marqué, le masculin ne l'est pas, et du coup, le neutre et le masculin se confondent.
Si cette interview vous a intéressé, vous pouvez vous rendre à la bibliothèque du Chat Noir, les mercredis et les dimanches de 14h à 18h au 33 rue Antoine Puget, à côté du métro Minime et du métro Barrière de Paris.
Mi humilas pri viva ironii mi havas gris con l'oro veston por ciu tage vesti mi cae mal proxime estas de grisai tacoi fitin niam de longe ne donatsis al iu rugem florem sed espero min curo sotto una sole crede mi am loro in grande malgioi, pli ofte ci non festoi, rencontis mi en voi, jen vintra voio, jen somera, mi presca un mese estas nun, mi vidas nur esperoi, nur verda, verda lum, mi am de longe ne donatsis ali urugiaen floroin sed, espero nin curatas subtena sole cret mi am de longe ne donatus ali urugia in florense espero nin curatas subtena sole cret. Sali urugia in Florence, espero min curatas, subtena sole cret, mi am de longe ne donatsi. Sali urugia in Florence, espero min curatas, subtena sole cret.
Recepto. Recette de cuisine. Recette de cuisine. Recepto.
Saluton al ciui. Hodiaŭ mi estas con Luca por paroli pri recepto de biero. Luca, ĉu vi povas prezenti vin?
Kompreneble. Mi estas Lucas, unu el la novaj volontuloj de Ekoco. Mi estas 22 jaraĝa kaj mi multe ŝatas kuirarton kaj historion. Kaj hodiaŭ ni parolas pri biero.
Kial vi volas paroli pri biero?
Nu, unue ĉar mi multe ŝatas trinki bieron kaj mi faris bieron dum mia libertempo. Kaj fakte ĝi ne estas tiel malfacila. Do mi ŝatus diskonigi la recepton, kaj due ĉar mi havas anekdoton pri biero kaj sorĉistinoj. Do senprokraste ek. Por fari bieron, vi bezonas akvon, prefere elfontan akvon, bieran malton, lupolon, biergiston kaj du grandaj kaserorojn. Unue vi devas meti la agvon en kaserolon, kaj varmigi ĝin je ni diru 60°C gradoj, ĉar depende de la biero kiun vi volas fari, la temperaturintervalo estas de 62°C. Due vi povas meti la bieran malton en la agvon dum unu horo, jen la etapo kiun ni nomas en la franca empâtage. Mi ne scias kiel oni diras en Esperanto. Tiu etapo liberigas la sukeron enhavitan en la malto. Sukero, kiu poste donos al ni alkoholon. Post unu horo, por ekstrakti la maksimumon da sukero el la maltoj, vi devas verŝi varman akvon, do 80°C, el alia kaserolo supre. De tiu ĉi etapo, ni akiras sekigitajn, distilitajn grenojn, kiun ni povas uzi por kuirado kaj moston, la akvon enhavanta sukerojn. Trie, ni devas varmigi la moston ĝis bolo kaj aldoni la lupolojn. Do, la unua lupolo, nomata maldolĉa lupolo, ĉe la komenco de bolado, kaj la dua lupolo, la aroma lupolo, 10 minutojn antaŭ la fino de la horo. Kvare, ni devas malvarmigi la preparadon por meti en ĝin la giston. Kaj kvine, ni povas meti la tuton en unu flaskon kaj atendi 2 semajnojn por ke la fermentado okazu. post du semajnojn ni havas bieron, sed ĝi ne havas veziketojn. Do ni devas fari unu lastan etapon, la duan fermentadon, kiu aldonas la veziketojn. Ni devas aldoni iom da sukero en la flasko kaj ni povas komenci la embotelligan procedon. Fine, post 3-4 semajnojn ni povas trinki kaj ĝui nian bieron. Simple, ĉu ne? Eble en la estonteco ni faros filmeton por detale montri al vi kiel ni faras ĝin. Okay, mi preskaŭ forgesis la anekdoton. Sed unue iom da contexto. Ni povas komenci dirante che biero estis virina afero de tre longa tempo. Ekde la komenco de biero en Mezopotamio circau 8000 antaŭ Kristo, bierfarado estis ĉefe farita de virinoj. Cetere, la diino de biero en Mezopotamio estis Ninkazi, la diino de biero. Kai oni trovis himnon al ŝia gloro sur agilaj tabuletoj, kiu priskribas la procezon fari bieron. Sed por antigi sorcistinojn, ni devas atendi la mezepokon. Mezepoke, fari panon, kuiri cerealojn kaj fari bieron estis parto de la ĉiutagaj taskoj de virinoj. Precipe tiutempe, trinkakvo ofte estis pli dangera ol trinki bieron, kiu danke al la bolando kaj fermanta fazo estis pli pura. Virinoj do komencis fari multajn kvantojn por sia parencaro, sed ankaŭ por aliaj, ĝis la bierfarado iĝis preskaŭ profesie, eĉ profesia. Kio pri sorĉistinoj en ĉio ĉi? Nu, laŭ iuj historiistoj, la caracterizajoi de la bierai vendistinoi, la alewife en la angla, respondus al tiui de la sorcistinoi. Effective, la udire gi estas agnoscita en la bazaroi cae fuaroi, la vendistinoi de biero partis grandai pintai chapelon, kiui ebligis ilin rimarki. Cun la cato. La cato, homa cun uro de tre longa tempo, estas conata pro gia rolo en extermado de ratoi. Cai ciam vi tenas cerealoin heime, cai vi volas eviti curadon cun musoi au ratoi, cato povas efiki por protecti contra malutilai bestoi. La balailo? Oni diras che la virinoi metis grandai balailoin cun lupoloi cai cerealoi pendentai sur ilin por signali che citie oni vendas bieron. Cai la caldrono, simple la ilo cion ve besonas por fari bieron. Aldonu al tio la facton che tiu tempe la ecclesio emis demonigi tiu in ci virinoin. Ribeluloi, sexe devoigiantai practicantoi, farante pozioin, char jes ciante cian planton usi per fare bieron, famigis ilin ciel herbistoin, cae ciui perversigas viroin per alcoholo. Ilia percepto estis ligita al tiu de peculinoi. Do, ciu vi connectas? Piculinoi, pinta chapelo, cato, granda caldrono, palailo, jen vi nun conas tiun teorion. Credu au ne, dependas de vi.
Matena è litigio, ci amiena sama ago, la predigo por prestigio, la preparo por la tago, dezza spele signa vesti, svinchi combi cai parfumi, char nur plac aspette esti, nomas nia culturumi. Spero post laboro, regas min jena problemo, kia placi cun humoro, affablezzo sin deteno, en conformo cun sozio, estu mia iago nur, char per tio tanto al Dio, vivas mia grand cultur. Catastrofo, chi un foie mi travivis, preterpasis la spegulo, visac faudoi exclusivis. Nausa, accia, crom fiasco, figri mazzo, cis min captis la sagazzo, forgessita estis masco. Nausa, accia, crom fiasco, figri mazzo de pajazzo, cis min captis la sagazzo, forgessita estis masco. Nausa, accia, crom fiasco, figri mazzo de pajazzo, cis min captis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa, accia, crom fiasco, figri mazzo de pajazzo, cis min captis la sagazzo, forgesita estis masco. Nausa, accia, crom fiasco, figri, mazzo, de pajazzo, gis, mi captis, la sagazzo, forgesita, estis masco. Nausa, accia, crom fiasco, figri, mazzo, de pajazzo, gis, mi captis, la sagazzo, forgesita, estis masco. Pajazzo, gis, mi captis, la sagazzo, nausa, accia, crom fiasco, figri, mazzo, de pajazzo, forgesita, estis masco.
Grimazzo,
fiasco,
gis, mi captis, la sagazzo, nausa, accia, crom fiasco, figri, mazzo, de pajazzo, forgesita, estis masco. Fiasco!
Lecture.
Lecture. Legado.
Legado.
Voici Vana Espero, une poésie de Marie Hankel. Elle est la première poétesse en espéranto, et en 1911, lors du 7e congrès mondial d'espéranto à Anvers, elle fonde et devient la première présidente de l'Association de littérature d'espéranto. C'est aussi une suffragette, et milite pour le droit de vote des femmes. Jen Vana Espero, poesio de Marie Hankel. Ŝi estis la unua esperanto poetino de la mondo. Kaj en 1911, dum la sepa Universala Kongreso, ŝi fondis la Esperantistan Literaturan Asocion. Ŝi ankaŭ estis sufrageto, ĉar ŝi estis membrino de militema movado por egalrajtigo de virinoj. Somero alvenis, per floroj nin benis, varmega la tero, kaj viva l'espero. Nun ridas la suno al ni de l'autuno. Star ciel nur ploroi, malgaiai la coroi. Ho, kial vi plendas? Ni fructoin attendas, sed nuda la tero, cae vana l'espero. Tamen, laboro sen laza, persista cae pazza, quasa unur prove, penadas de nove, contimo cae tremo,
per diligentemo. Proximan la jaron, ni trovos fruktaron.
Plugon en la floroin bella in cara mia. Lasu ilin brili tra somer. Lasu ilin vivi, lasu ilin apparteni al nenio. Ne captidias la mister. Plugon en la birdon bella in cara mia. Lasu ilin flu. Lasu ilin canti, lasu ilin liberemi en manillo, casus morton del mister. Plugu nella homo in bella in cara mia. Lasu ilin ami tra somer. Lasu ilin vagi, lasu ilin tabasami, cio caso. Blas la mister.
Le 13 mars prochain, de 11h à 15h, Ecotso vous propose une nouvelle promenade dans un parc de Toulouse. Les volontaires, membres et curieux, sont les bienvenus pour parcourir le parc de l'Observatoire. Si la météo nous le permet, nous pique-niquerons. Le point de rendez-vous est la station de métro Jolimont à 11h. La dec trian de marto, de la dec unua à la dec vina, Ecotso organizos novan promenadon en quartalo de Toulouse. Volontuloi de Ecotso kaj asocianoj vizitos la observatorian parkon. Se estos bona vetero, ni manĝos tie kune. La renkonto punkto estos la metrostacio Jolimont je la dekunu matene.
Le 12 mars, Flo Martorell fera une présentation de Euroka, Vinyl Cosmo et de la musique espérantiste sur Zoom. Pour rappel, Euroka est une association musicale d'espéranto et Vinyl Cosmo, le label indépendant de musique pour les artistes espérantistes. Les deux ont pour vocation de développer et propager la culture musicale espérantiste et les artistes et groupes chantant en espéranto. Vinyl Cosmo avait lancé un nouveau concept en 2015. Il s'agit d'un club pour s'abonner à la musique en espéranto, suivant diverses formules d'abonnement. Maintenant, avec cet abonnement, vous aurez aussi accès à Music Diversities, une plateforme de streaming musical dédiée à la découverte et à la création culturelle indépendante. On en profite aussi pour vous dire qu'aujourd'hui, l'Abonne Clubo continue. Il a besoin de votre soutien et de vos réabonnements pour la nouvelle année 2021, afin de pouvoir contribuer à produire et à publier des nouveautés musicales. L'abonnement débute à partir de 10 euros par an. Si vous voulez donc en savoir plus sur ces nouveautés musicales, Roca ou Vinyl Cosmo, nous vous invitons donc à rejoindre la présentation qui sera faite par Flo Martorell le 12 mars sur Zoom à 20h, ou bien à vous rendre sur vinylcosmo-mp3.com dans la catégorie vinylcosmo-abonclodo. La decdua de Marto, Flo Martorell faros presentadon de Euroca, Vinyl Cosmo kai Esperanta Musico per Zoom. Memorige, Euroca estas Esperanta Musico Associo kai Vinyl Cosmo la sendependa musica etichedo por Esperantai artistoi. Ambau celas disvolvigi kai disvastigi Esperantan musican culturae kai artistoin kai grupoin cantantain en Esperanto. Vinyl Cosmo lancis novan concepton en 2015. Temas pri clubo por abonigi al Esperanto Musico lau diversai abonformuroi. Nun, cun tiu abono, vi ancau havos aliron al Music Diversities, platformo de musico streaming dedicita al sendependa cultura, malcovro kai creu. Ni ancau profitas tiun ocason por dili al vi che hodiau la abonkludo daore bezonas vien subtenon kai vien aligion au reabonon por la nova jaro 2021 por avi la eblecon plu producti kai plu eldoni novain Esperanto muzik projektoin. La abono comencigas je 10 euroin jare. Do se vi volas ci pli pri nova muziko, Euroca au Vinyl Cosmo, ni invitas vin aligi alla presentado de Flo Martorell, la decduan de Marto en Zoom, je la dudeca au viziti la redpagion Vinyl Cosmo mopo3.com en la categorio Vinyl Cosmo abonkludo.
Si vous avez manqué notre soirée jeu la semaine dernière, et que vous ne pouvez pas attendre pour la prochaine, le groupe allemand La Radkaptista Bando en propose une ce mercredi 10 mars à 20h sur Zoom. Papier et stylo seront de rigueur puisque le jeu Just One sera à l'honneur et chacun devra présenter un mot en espéranto. Plus d'informations sur le fonctionnement de la soirée et le lien de l'événement se trouveront sur la page de notre podcast. Encore une fois, le mot de passe de la salle virtuelle est l'année au cours de laquelle Zamenhof a publié son ouvrage Langue internationale. Se vi maltrafis nian ludvesperon pasintsemajne kaj vi ne povas atendi la sekvan, la germana grupo La Radkaptista Bando invitas vin al la ilia ĉimerkrede la dekan de marto je la dudeka horo ĉe Zoom. Paperoj kaj skribiloj estas gravaj, ĉar la ludo estas just one aŭ nur unu, kaj ĉiu prezentos sian Esperanto vorton de la tago. Pli da informoj pri kiel funkcias la vespero kaj la ligilo por la evento estas en nia podcasto. Denove, la pasvorto por la Zoom-ĉambro estas la jaro en kiu Zamenhof publikigis la unua libro.
53e porte ouverte de UEA et de Teio. Cet événement sera organisé par UEA et Teio. Elle aura lieu le 7 avril prochain de 12h à 18h, heure française sur Zoom. Durant cette journée, auront lieu des événements où vous pourrez rencontrer des personnes du monde entier en abordant une multitude de sujets. Vous pouvez participer aux modules tels que celle sur la littérature espérantophone ou celle sur la réponse de Teio face à la crise sanitaire. Vous pouvez retrouver des vidéos des événements passés sur la chaîne YouTube des UEA. Si vous voulez en savoir plus sur cet événement, retrouvez toutes les informations sur les sites de Teio et de l'UEA.
La 53a malferma tago. Citiu eventoi estas organizita de UEA kaj Teio. Gi okazos la venontan 17 de aprilo de la 12 ĝis la 18 Amsterdamo horo per la ilo Zoom. Dum la tago organiziĝas agado kaj eventoj kie vi povas renkonti homoj el la tuta mondo kaj kie vi povas paroli pri multaj aferoj. Vi povas partompreni en la paneloj kiel Esperanta mondliteraturo aŭ kiel tio funkcias kaj respondas al la koronavirusa krizo? Vi povas trovi filmetojn de la pasjara aranĝo ĉe la jutubala kanalo de UEA. Se vi povas scii pli pri ĉi tiuj eventoj, vi povas trovi informojn en la societretoj de Tejo aŭ UEA.
On se retrouve la semaine prochaine sur Canal Sud de 20h à 21h pour une nouvelle émission. D'ici là, bonne soirée, bonan vesperon.
3, 2, 1, 10!
Say